liberté d'expression. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Vous écoutez RFI, il est 9h10 à Paris, 1h de moins à Yamoussoukro. Je vous laisse avec Juan Gomez.
Très bonne journée, merci André.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Nombreux sont ceux qui ont découvert Jean-Baptiste Andréa en novembre 2023, lorsque son roman « Veiller sur elle » a été couronné par le prix Goncourt. Pourtant, en 2017, des lecteurs curieux avaient déjà remarqué son premier roman, « Ma reine », publié aux éditions L'Iconoclaste. Il y faisait preuve du même talent pour décrire l'univers de l'enfance, savant mélange de réalisme et d'onirisme, de naïveté et de cruauté. Le jeune narrateur est surnommé Shell. On dit de lui que c'est un enfant différent. Lors d'une fugue, il fait une rencontre déterminante. Celle d'une petite fille, Viviane, qui, telle une fée, va l'ensorceler et devenir sa reine. Touché et enchanté par ce roman, nous avons choisi de vous en lire quelques extraits. Laissez de côté votre esprit rationnel et embarquez avec nous dans l'imaginaire de Jean-Baptiste Andréa.
À force de m'entendre répéter que je n'étais qu'un enfant et que c'était très bien comme ça, l'inévitable est arrivé. J'ai voulu leur prouver que j'étais un homme. Et les hommes, ça fait la guerre. Je le voyais tout le temps à la télé, un vieil appareil bombé devant lequel mes parents mangeaient quand la station était fermée. À l'époque, il ne passait pas beaucoup de monde sur la route qui descendait vers la vallée de l'Asse, en bordure de laquelle nous vivions, oubliée par la Provence. Notre station, c'était juste un vieil auvent avec deux pompes dessous. Autrefois, mon père astiquait les pompes régulièrement, mais avec l'âge et le manque de passage, il avait renoncé. Moi, ça me manquait, les pompes qui brillaient. Je n'avais plus le droit de les nettoyer tout seul parce que la dernière fois que je l'avais fait, j'avais fini trempé et ma mère m'avait enguirlandé comme si elle n'avait pas assez de travail comme ça avec un feignant de mari et un attardé de fils. Mon père et moi, quand elle se mettait dans ses états, on la bouclait. C'est vrai qu'elle avait assez de travail, surtout les jours de lessive, avec les combinaisons raides de cambouis de l'atelier. C'est vrai aussi que, quand je prenais un seau, toute l'eau dedans me sautait dessus. Je n'y pouvais rien, c'était comme ça. Mes parents parlaient peu. À la maison, un rectangle de parpaing que mon père n'avait jamais fini d'enduire derrière la station, les seuls bruits étaient ceux de la télévision et des mules de cuir sur le lino, du vent qui dévalait de la montagne et qui venait se coincer entre la paroi et le mur de ma chambre. Mais nous, on ne parlait pas. On s'était déjà tout dit. Ma sœur nous rendait visite une fois l'an. Elle avait 15 ans de plus que moi. Elle était mariée et elle vivait loin. En tout cas, ça paraissait loin sur la carte quand elle me le montrait. Chaque fois qu'elle venait, ça finissait en dispute entre les parents et elle. Elle pensait qu'une station-service dans un coin pareil, ce n'était pas un endroit pour moi. J'avais un peu de mal à comprendre pourquoi, parce que la station me paraissait très bien, à part les pompes sales. À son départ, je regardais la carte et je me demandais toujours ce qu'il y avait de mieux là où elle habitait. Je lui ai posé la question. Elle m'a caressé les cheveux et m'a dit que dans sa ville, j'aurais des amis de mon âge, des gens à qui parler. Et peut-être que je voudrais rencontrer une femme un jour. Les femmes, je les connaissais plus qu'elles ne le croyaient. Mais je n'ai rien dit. Ma sœur a continué. Les parents étaient vieux, qu'est-ce qu'il m'arriverait s'ils n'étaient plus là? Je savais que quand on disait des gens qu'ils n'étaient plus là, c'était pour de bon. Ils ne revenaient pas. J'ai répondu que je m'occuperais de la station tout seul. Et elle a fait semblant d'y croire. Mais j'ai bien vu qu'elle mentait. Je m'en fichais. Je me réjouissais secrètement de pouvoir un jour briquer les pompes. Ma sœur avait raison sur un point. Des amis, je n'en avais pas. Le village le plus proche était à 10 kilomètres. Les gars de l'école, je les avais perdus de vue depuis que je n'y allais plus. Je ne voyais que les automobilistes qui s'arrêtaient pour prendre de l'essence et dont je remplissais fièrement le réservoir avec sur le dos le beau blouson Shell que mon père m'avait donné. C'était avant que Shell s'aperçoive qu'on ne vendait pas assez d'essence, ce qui nous avait forcé à passer à une marque italienne qui, elle, n'en avait rien à faire. Mais je mettais le blouson quand même. Les clients me parlaient, ils étaient gentils, il y en avait souvent un pour me glisser la pièce et mes parents m'autorisaient à la garder. On avait même quelques habitués comme Mati, mais pas d'amis. Ça ne me dérangeait pas, j'étais bien là-bas. Ce qui m'a fait partir, c'est une cigarette. La vallée sortait d'un hiver dur qui avait carambolé l'été. Le pauvre printemps s'était retrouvé écrasé entre les deux. J'avais entendu un client dire ça. J'avais trouvé ça drôle. C'était comme le vent entre ma chambre et la montagne. Parmi les missions qui m'étaient confiées, je devais remettre du papier toilette dans le réduit marqué C. Le W était tombé. Et on ne l'avait jamais remis quand on avait constaté qu'il faisait un excellent dessous de plat. Le papier toilette, c'était un grand mot pour désigner un journal découpé en carrés, mais c'est justement ce que j'adorais, découper les carrés. Il fallait faire bien attention à ne pas couper un journal que mon père n'avait pas lu en entier. Une fois, je m'étais pris une beigne pour ça et il m'avait forcé à recoller la page des sports jusqu'à se rendre compte qu'un client avait utilisé le carré avec les résultats qui l'intéressaient. J'avais pris une deuxième beigne. Il était 2 heures et il n'y avait eu qu'une voiture ce jour-là, une 4L bleue. Je m'en souviens bien évidemment de cette 4L. La montagne brûlait comme une tôle d'acier derrière la station. J'avais passé 1 heure à faire du découpage et j'étais entré dans les C, comme on les appelait, pour y laisser le papier. Je ne respirais jamais dans le réduit. J'avais la phobie des mauvaises odeurs depuis que j'étais tout petit. Et même si personne n'avait utilisé les C depuis quelques jours, il sentait toujours une odeur désagréable de vieille terre pourrie, une odeur que j'associais à la mort, au compost plein de choses grouillantes que ma mère mettait autour du géranium, la seule fleur de la station. La fleur mourait régulièrement, mais ma mère la remplaçait à chaque fois. Mon père avait gueuler que c'était le compost qui le tuait, son géranium. Elle n'écoutait pas. C'est en sortant de la petite cabane que j'ai remarqué le paquet de cigarettes tombé sous l'évier. Il en restait 2. Je n'avais jamais fumé. Mon père racontait toujours comment il avait vu pendant la guerre un type qui fumait en faisant le plein et qui s'était enflammé. Il avait fallu une citerne entière pour l'éteindre. Chaque fois que les pompiers croyaient que ça y était, le type se renflammait. Je crois que mon père exagérait pour qu'on comprenne. Chez nous, il y avait un gros signe avec une cigarette géante barrée au-dessus des pompes. Mais j'étais loin des pompes, loin de la maison, et par sécurité, je suis allé m'installer sur le petit promontoire derrière le réduit. J'avais des allumettes sur moi, c'est toujours utile pour brûler un insecte. Un client qui m'a vu faire un jour m'avait traité de sale con cruel. Mais je me souvenais qu'à l'école, on avait disséqué des grenouilles vivantes, alors je ne voyais pas trop bien la différence. « Sale con cruel, toi-même !» je lui avais répondu. Puis j'étais parti en pleurant. Ça lui avait coupé le sifflet. Ma mère était allée parler au type, le sale con cruel. Je les avais vus de loin, il faisait des grands gestes, surtout elle. Lui, il ne disait trop rien. Au final, il ne s'est rien passé. Le type était parti, et quand j'avais été sûr qu'il ne pouvait pas me voir, je lui avais montré mes fesses. J'ai allumé la cigarette comme dans les westerns, et après deux bouffées d'essai, j'ai aspiré de toutes mes forces. Oh, c'était pire que la fois où j'avais failli me noyer quand j'avais 8 ans. Les dernières vacances dont je me souvenais, on était monté au lac et une dame avait sorti de l'eau, sauf que là, en plus, ça brûlait. J'ai lâché ma cigarette, elle est tombée sur un tas d'aiguilles de pin. J'ai voulu piétiner le mégot, il a sauté. Les aiguilles se sont enflammées comme ça, dans un rire d'étincelle, un énorme rouge et jaune qui m'a pris la chaussure. J'ai crié, ma mère est sortie, mon père aussi. Il a tout de suite compris ce qui se passait. Et dans la région, on ne rigolait pas avec les incendies. Il est arrivé avec un extincteur, je ne l'avais jamais vu courir aussi vite. Pourtant, il n'était plus tout jeune. À la fin, il y avait un carré de terre brûlée sur le promontoire. Pas grand-chose. Mais c'était pas passé loin. C'est ce qu'a dit mon père, en tout cas. C'est pas passé loin. Ma mère m'est tombée dessus comme une furie. Je pense que mon père m'aurait bien cogné, lui aussi. Mais il n'osait plus trop lever la main sur moi parce que j'étais devenu grand. J'ai hurlé que je n'étais plus un gamin. Ma mère a répondu que si, justement, j'en étais un et que tant que je vivrais sous son toit, je ferais ce qu'elle dirait et que j'avais intérêt à me rentrer ça dans ma caboche de 12 ans. Ce soir-là, ils ont appelé ma sœur. J'ai tout entendu à travers la porte. Ils croyaient parler à voix basse, mais comme ils étaient tous les deux un peu sourds, à voix basse, c'était presque à voix haute. Ils ont utilisé le gros téléphone de bakélite de la maison. La seule chose qu'on me laissait nettoyer, parce que je ne pouvais pas le casser et qu'il n'y avait pas besoin d'eau. Je le frottais plusieurs fois par jour. Il brillait comme du goudron frais. Ça faisait du bien juste de le regarder. Et parce que je l'adorais, ce téléphone, qu'il m'avait trahi deux fois. Ils ont dit à ma sœur qu'elle avait raison, qu'ils étaient maintenant trop vieux pour s'occuper d'un gamin et qu'il fallait qu'elle envoie quelqu'un. Ils lui ont raconté que j'avais encore failli mettre le feu. Moi, je ne me rappelais pas que c'était déjà arrivé. Il y a eu un grand silence pendant que ma sœur parlait et j'ai compris qu'on allait venir me chercher. Je ne savais pas quand. Demain, dans un mois, dans un an, ça ne faisait pas une grosse différence. On viendrait, et c'est tout ce qui comptait. C'est ce jour-là que j'ai décidé de partir à la guerre. Le problème, c'est que je ne savais pas où on faisait la guerre. Je savais juste que c'était loin. Parce que j'avais demandé à ma mère, un jour, et elle avait répondu ça, loin. Loin ? Pour moi, ça commençait au plateau, en haut de la montagne qui tombait juste contre ma chambre. Au dîner, j'ai annoncé à mes parents, je m'en vais. Mon père n'a pas répondu parce que son feuilleton venait de commencer. Ma mère m'a dit de finir mes lentilles et de ne pas parler la bouche pleine. C'était tant mieux, au fond. Parce que s'il m'avait ordonné de rester, je me serais dégonflé. Quand même, j'étais un peu triste de quitter la station. C'était là que j'avais passé toute ma vie. Je ne connaissais pas d'autre endroit. Et ça m'allait très bien. Mon père disait qu'ailleurs, c'était pareil qu'ici. Un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, mais fondamentalement pareil. J'avais grandi dans l'odeur d'essence et de graisse du petit atelier où on réparait parfois les chasse-neige du département. Ça, c'était des odeurs que j'aimais. Elles me manquent maintenant. Autrefois, quand je revenais de l'école, je mettais une vieille combinaison dont ma mère avait taillé les bras et les jambes et je faisais semblant d'aider mon père. Parfois, il me laissait lui passer un outil juste pour me faire plaisir parce que je lui passais toujours le mauvais. Et puis, quand j'ai dû arrêter l'école, il a bien fallu me donner des choses à faire et c'est là que j'ai été autorisé à faire le plein avec mon blouson Shell. Maman disait que les clients aimaient ça, le blouson. Ça faisait cossu, même si je ne savais pas ce que cela voulait dire. Je sentais bien que c'était quelque chose de chouette d'être cossu. Ce soir-là, on voyait comme en plein jour et j'ai retrouvé le sentier facilement en sortant de la forêt de pins. Il faisait une cicatrice de craie blanche sur la falaise, un genre de Z géant, la seule lettre que je reconnaissais bien grâce à Zorro. J'ai fait attention de ne pas faire de bruit comme ça, par habitude, parce que chaque fois qu'on me remarquait, ça se terminait mal en général. J'ai commencé à grimper. À mi-chemin, je me suis arrêté. J'étais essoufflé. Je ne me souvenais pas que c'était si dur. La dernière fois, j'étais monté sans m'arrêter et j'aurais pu continuer jusqu'au ciel. Là, j'avais le cœur qui cognait et un point de côté. Je ne voyais plus la station. Mais je distinguais le pont où passait la route avant d'arriver chez nous. Je pouvais le cacher avec ma main tellement il avait rétréci. Ça m'a fait peur et ça m'a excité à la fois. Quelque part en bas, mes parents dormaient. Là-haut, ça devait mitrailler de partout, même si je n'entendais rien. J'étais encore trop loin de la guerre. Je me rappelle m'être dit que j'avais beaucoup de route à faire parce que la dernière fois que j'avais regardé par-dessus le rebord du plateau, il y avait juste ces prés immenses comme la mer et des moutons qui faisaient des vagues. Il faudrait que j'aille encore plus loin, peut-être même au-delà des montagnes, pour trouver les batailles qui leur montreraient à tous de quel bois je me chauffe. Je n'avais pas de temps à perdre. C'est drôle, je n'ai pas pensé un seul instant qu'on pouvait me chercher. Mais quand Viviane en a parlé plus tard, ça m'a paru évident. Mais je ne réfléchis pas si loin, c'est un autre de mes problèmes. Je me suis remis tranquillement en marche, le 22 de mon père en travers des épaules. C'est là seulement que je me suis aperçu que j'avais oublié mon sac à dos avec mes affaires de guerre. Tout s'est mis à tourner. Je ne savais plus ce qui était le haut et ce qui était le bas. Le sentier a rétréci sous mes pieds. Il est rentré dans la paroi et je me suis plaqué contre elle de toutes mes forces. J'avais la figure mouillée, froid, chaud, envie de vomir. J'avais peur de tomber, mais une voix me disait que tout irait bien, que je n'avais qu'à sauter et que comme ça, je n'aurais plus jamais, jamais peur de rien. Plus personne ne m'emmènerait, plus personne ne m'appellerait imbécile. La petite voix murmurait « saute, saute !» pendant que mes mains s'agrippaient comme des araignées géantes au rocher. J'ai fermé les yeux, mais ça a été pire. La montagne s'est retournée. J'avais la tête dans le vide et les pieds dans le ciel. Ça m'a donné encore plus envie de vomir. Mes mains ont fini par écouter la voix et elles ont lâché. J'ai aspiré une grande bouffée de nuit. Une odeur âcre d'église, d'ardoise et de sarriette. Je n'étais pas mort au fond de la vallée. Le chemin ne s'était pas évanoui. Il était là, bien dur et bien blanc sous mes paumes. Je m'étais juste éraflé la joue contre le rocher. Mais je n'avais plus mon fusil. J'avais dû le lâcher. Il avait disparu dans le vide. Un gros rocher dépassait des champs. Je suis allé m'allonger contre pour dormir. Avant de fermer les yeux, j'ai vu un sainfoin flou avec une grosse fleur pourpre. Sur la tige, un scarabée couvert de rosée grimpait vers le soleil. C'est le soleil qui m'a réveillé. Il appuyait sur mes paupières avec ses pouces chauffés à blanc. J'ai mis un bras en travers de mes yeux pour continuer à dormir. Il y avait un grand calme autour de moi, juste le bruit de l'air qui poussait sur la terre. Mais au milieu de ce calme, il y avait quelque chose d'autre, une forme sculptée par le vent et j'ai fini par ouvrir les yeux. Elle me regardait, assise sur le rocher, le menton sur les genoux et les bras autour. J'ai sursauté et elle aussi. On s'est regardé sans trop savoir quoi faire.
J'ai cru que t'étais mort,
elle a fini par dire. Elle avait une drôle de voix rauque, une voix de femme qui n'allait pas avec son corps de fille. Elle était très mince, tellement qu'elle avait l'air de pouvoir se glisser entre deux rafales de vent sans déranger personne. Ses cheveux étaient courts et blonds, avec une longue mèche sur le front, un genre de coupe de garçon. Mais ce sont ses yeux qui m'ont frappé. Quand je dis frappé, j'ai vraiment eu l'impression de recevoir un coup parce qu'ils avaient l'air en colère et que je n'avais rien fait. J'ai répondu que non, je n'étais pas mort. Je voulais qu'elle me laisse tranquille, j'avais besoin de penser. C'était la première fois de ma vie que j'avais dormi loin de mes parents et qu'il fallait que je réfléchisse pour comprendre ce que ça voulait dire. J'étais sûr que c'était important. Au lieu de me laisser tranquille, elle m'a regardé en fronçant les sourcils, mais pas tout à fait comme le font les gens à qui je parle pour la première fois et qui ont toujours l'air étonnés. Ça m'a énervé parce que c'était nouveau et que je n'aime pas trop ce qui est nouveau. Elle m'a dit son nom alors que je ne lui avais rien demandé.
Viviane.
Quand j'ai voulu lui dire le mien, elle ne m'a pas laissé parler.
Ça fait mal ta figure ?
J'ai touché ma joue, c'était dur et râpeux. Là où j'avais frotté la falaise, ça piquait juste un peu. J'ai grogné. Ensuite, elle a désigné mon blouson, mon beau blouson jaune avec les lettres rouges dans le dos.
Shell, c'est un drôle de nom.
Et elle a éclaté de rire, c'était quelque chose de chouette son rire. C'était frais, c'était agréable. Mais bon, je ne m'appelais pas Shell. Shell, c'est une marque d'essence, et je lui ai dit. Elle s'en fichait, elle aimait Shell. N'importe quel autre nom m'irait moins bien, ce serait moche. Après ça, je me voyais mal lui dire comment je m'appelais.
C'est toi qui es moche,
j'ai répondu à la place. Et sur le coup, je n'ai pas trouvé mieux. Et franchement, c'était déjà bien envoyé. Tellement bien envoyé que Viviane a serré les dents et elle est descendue du rocher. J'ai cru qu'elle allait me sauter dessus. Je suis fort, mais elle avait l'air vraiment en colère. Je n'étais pas très rassuré. Quand elle a parlé, sa voix m'a fait penser au vent.
Je t'ai pas autorisé à parler,
elle a dit. Je parle si je veux.
Je te déteste.
Moi aussi. Et elle a eu l'air de réfléchir. Elle a regardé le ciel, puis la terre. Du bout du pied, elle a fait un petit trou dans la poussière.
Tu fais quoi ?
J'ai respiré de toutes mes forces pour me faire plus gros. Je vais à la guerre.
Quelle guerre ?
J'ai ricané. Quelle guerre ? Elle ne regardait jamais la télé ? Celle de la télé.
Pourquoi ?
Toutes ces questions me fatiguaient. J'avais l'impression de prendre une raclée sans qu'elle me touche. C'est comme ça, je lui ai répondu. Les hommes, ça va à la guerre. Elle a craché par terre, et là non plus, ça n'allait pas avec son corps de fille. Mais ça allait avec la rage dans ses yeux. Et elle m'a encore demandé...
Pourquoi ?
Pourquoi quoi ?
Tu veux être un homme ?
Je n'ai pas su quoi répondre. Ça n'a pas dérangé Viviane. Elle a répondu pour moi.
T'es un grand échalas d'imbécile, voilà pourquoi.
Je ne connaissais pas échalas, mais je connaissais imbécile. Et ça m'a pas fait plaisir. J'ai serré les poings et j'ai vu tout de suite que je lui avais fait peur. Elle avait les larmes aux yeux. C'est idiot, mais ça m'a donné envie de pleurer aussi.
Je te déteste.
Elle a répété. Je te déteste encore plus. Elle a tourné le dos et elle est partie. Et ça m'a presque soulagé de ne plus voir ses yeux. Plus loin, elle s'est retournée.
Je reviendrai demain.
Je me suis mis à rire. Des fois, ça effrayait les gens quand je riais comme ça, tellement c'était fort. Qu'est-ce qu'elle croyait ? Demain, je serai loin d'ici, je serai de l'autre côté du plateau, peut-être même déjà à la guerre. J'ai ouvert la bouche pour me moquer d'elle et j'ai dit « D'accord ». Le lendemain, elle n'est pas revenue. J'ai attendu toute la journée.
Thank you.
Je suis monté une dernière fois sur le rocher pour dire au revoir au plateau. J'ai senti une grosse bourrasque de vent, un travesseau tellement fort qu'il était dur comme un mur. J'aurais pu me pencher et dormir contre. Puis la rafale est passée, l'herbe du plateau s'est redressée et j'ai vu la silhouette mince qui avançait vers moi. Viviane est sortie du vent. On s'est installé sans rien dire derrière le rocher, bien à l'abri. Ça me faisait plaisir de la revoir, mais j'avais trop de mots, il ne pouvait pas sortir. Elle avait un œil au beurre noir, le gauche. La gauche, c'est le côté où la semelle de ma chaussure se décolle un peu. Heureusement, j'étais parti avec la bonne paire. « C'est ton père qui t'a fait ça ?» j'ai demandé. Elle m'a regardé d'un drôle d'air, puis elle a rigolé. Elle a voulu savoir où j'étais allé chercher ça. Moi, la dernière fois que j'avais eu un œil au beurre noir, je lui ai dit « C'est mon père qui me l'avait collé. C'est un truc de parent. »
« Non, c'est pas mon père. Je me suis fait toute seule. »
Ça me suffisait comme explication, mais elle a continué.
« Je voulais savoir comment ça faisait. Je me suis donné un coup de poing. »
C'était logique. J'ai hoché la tête. Elle s'est tournée vers moi, à genoux dans l'herbe.
« Si je te demandais de me donner un coup de poing, tu le ferais ?»«
Si tu veux. » »«
Alors vas-y, fais-le. »
Je me suis mis à genoux face à elle, j'ai serré mon poing, elle a fermé les yeux, mais je n'ai pas bougé. C'était drôle, je n'y arrivais pas, je voulais lui rendre service, mais j'avais l'impression qu'elle me regardait à travers ses paupières fermées. Elle a souri sans rouvrir les yeux.
« Je le savais, tu ne peux pas lever la main sur ta reine. »
Moi j'ai juste dit « Hein ?» On s'est rassis, les jambes tendues, les miennes allaient plus loin que les siennes. Elle avait de jolies sandales sur des pieds bien blancs.
Où t'habites ?
À la station.
Quelle station ?
J'ai pointé le doigt vers le rebord du plateau. Celle d'après le pont des Tuves. Et toi ?
C'est un secret. Tu sais qui je suis ?
J'ai secoué la tête.
Je suis la reine.
J'ai voulu savoir la reine de quoi ? Elle a écarté les bras.
De tout ce que tu vois.
Le plateau ?
Le plateau.
Les montagnes aussi ?
Les montagnes aussi. Je suis la reine du plateau et des montagnes. Tu veux me servir ?
Oui, je sais faire le plein. Elle a ri, je ne sais pas pourquoi. J'ai ri aussi. Je n'avais pas eu d'amis avant et je crois que c'était ça qui se passait.
Me servir, c'est faire tout ce que je dis, pas juste le plein.
D'accord.
Attends, il y a des règles. D'abord, tu ne dois pas me toucher, sauf si je te le permets. Je suis ta reine. Jure ?
J'ai acquiescé, je n'avais jamais vu de reine avant, mais ça me paraissait logique aussi. Je jure.
Et enfin, et ça c'est très important, tu ne dois pas essayer de me trouver. C'est toujours moi qui viendrai te chercher.
Pourquoi ?
Parce que si tu découvrais d'où je viens, le sort serait brisé et que je redeviendrais une fille tout ce qu'il y a de plus banal. Je perdrais tous mes pouvoirs.
T'as des pouvoirs ?
Plein.
Tu peux faire pleuvoir ?
Oui.
Tu peux faire le vent ?
Bien sûr.
Montre.
Tu ne peux pas donner un ordre à ta reine. Jure que tu n'essaieras jamais de me trouver.
Je jure. Elle s'est levée. Elle a chassé les brins d'herbe de sa robe. Je me rappelle qu'elle était bleue.
On se retrouvera toujours ici et on explorera mon domaine ensemble.
Elle a dit de sa voix rauque de reine.
T'as des questions ?
J'ai répondu que je n'avais pas de questions. J'avais bien tout compris, surtout le coup du sort vu que ma mère, on lui en avait jeté un aussi. Évidemment, je savais que ça n'était pas la même chose que cette histoire avec Viviane. C'était une sorte de jeu, alors que le sort de ma mère, c'en était un vrai, et que j'en étais la preuve. Mais Viviane avait l'air sérieuse, et je ne voulais pas la décevoir. Je lui ai juste dit que j'avais très faim. Je ne savais pas trop comment j'allais pouvoir la servir en ayant si faim. Elle m'a répondu de ne pas m'inquiéter. Elle a employé une phrase compliquée, mais je n'ai pas osé lui demander de répéter. Au fond, j'avais compris qu'elle allait m'apporter à manger et j'ai prié très fort pour que ce soit des lentilles. On a fait un jeu. C'est elle qui a eu l'idée. Il fallait trouver la coccinelle avec le plus de points. Au début, j'ai eu du mal. Je trouvais beaucoup de points, mais il n'y avait pas de coccinelle autour. Et Viviane m'a appris comment chercher. D'abord, la coccinelle, bien rouge et bien brillante, et seulement après les poings. Quand elle expliquait quelque chose, ça paraissait beaucoup plus simple. Viviane était drôle avec les coccinelles. On aurait cru qu'elle avait peur. Elle poussait des petits cris d'excitation chaque fois qu'elle en avait une qui lui grimpait sur la main. Moi, je faisais le frimeur, j'en prenais plusieurs à la fois, sauf qu'à la voir couiner, j'ai commencé à avoir un peu peur, moi aussi. Mais je ne savais pas de quoi. Viviane avait l'air de connaître plus de choses que moi, et si elle avait peur, peut-être qu'elle avait une raison. Elle m'a laissé gagner, je le sais parce qu'elle me l'a dit. J'étais content quand même. Elle a fini par se lever, elle devait y aller, et au moment de partir, elle s'est tournée vers moi.
T'as remarqué ?
Quoi ?
Le vent s'est arrêté. C'est moi qui lui ai donné l'ordre. Il allait froisser ma robe.
Je suis monté sur mon rocher et je les ai regardés devenir tout petits. Elle, sa robe bleue et son œil au beurre noir, pas plus grand qu'un arbuste, une herbe, un insecte, rien du tout. L'horizon qui ondulait. J'avais beau savoir que c'était un jeu, c'était quand même vrai que le travesseau s'était arrêté. J'ai demandé à Viviane si elle voulait habiter avec moi dans la bergerie, mais elle a répondu qu'elle devait rentrer au château, sinon la reine-mère la chercherait. Pour la retenir, je lui ai demandé de me parler de son château, puis j'ai collé ma main sur ma grande bouche parce que je n'avais pas le droit de poser ce genre de questions. Ses dents blanches, un peu bombées, ont mordu dans sa lèvre et elle a soupiré.
C'est très grand. On mange à une table immense, servie par 1000 domestiques. Et on n'a pas le droit de parler.
Ah, ce n'était pas si différent de chez moi, alors, à part les 1000 domestiques. À la station, on n'avait pas le droit de parler non plus, à cause des actualités. Sinon, on risquait de manquer quelque chose.
Les domestiques sont des signes transformés en pages, elle a continué. Il y a 1000 pièces dans le château, et elles changent de place toutes les nuits. Ça peut prendre du temps de retrouver sa chambre. Et c'est pour ça que parfois je suis fatiguée le matin.
J'écoutais, la bouche ouverte. Je savais qu'elle inventait, mais c'était ça qui me troublait, avec Viviane, sa façon d'inventer, qui faisait tellement vrai qu'on était obligé d'y croire. J'étais un peu mal à l'aise quand je pensais aux pièces qui bougeaient. Je n'aimais pas ça.
La nuit, les lustres s'allument tout seuls. Il n'y a pas d'ampoule, mais des éclats de pierre de lune à la place. J'ai un lit tellement grand que je dois marcher un peu pour atteindre le milieu. Le matelas est fait de petits pois spéciaux qui poussent sur le soleil.
Là, j'étais vraiment sûr qu'elle inventait, parce que je n'avais jamais entendu dire qu'on cultivait des petits pois sur le soleil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. On avait un potager à la station et je m'y connaissais un peu et je pense que ma mère m'en aurait parlé de ces pois du soleil. J'ai grogné parce que mon esprit était tiré dans différentes directions. Les pièces qui bougeaient, les petits pois qui n'existaient pas. J'ai dû fermer les yeux un moment. Viviane s'est levée, elle m'a tendu la main et je l'ai serrée. Je me suis forcé à la lâcher. On s'est dit « à demain ». Je l'ai regardée disparaître. J'avais tellement envie de la retenir que j'ai imaginé sa silhouette longtemps après son départ. Puis la nuit est tombée et m'a forcé à rentrer. J'ai trouvé un vieux tas de paille dans un coin, je l'ai étalé par terre et je me suis allongé dessus, les mains derrière la tête. Je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié mon histoire de guerre, mes médailles, mon retour héroïque. J'ai eu un peu honte. Je ne voulais pas passer pour un lâche quand je rentrerais. Mais j'avais une reine. Je savais déjà que je ferais tout pour elle, pas parce que j'avais juré, mais parce que j'en avais envie. Et j'ai pensé que c'était peut-être ça, être un héros, faire des choses qu'on n'est pas obligé de faire. Et si ça ne suffisait pas à mes parents, s'ils insistaient avec ma sœur pour m'envoyer loin, alors je ferais venir Viviane. Elle leur dirait qu'elle ne pouvait pas se passer de moi et que de toute façon, elle était reine et qu'ils feraient ce qu'elle ordonnait. Point final, pas de discussion. Je ne vois pas ce que mes parents trouveraient à redire à ça avec leur station ridicule où les pièces ne changeaient même pas de place.
Tu veux que je te donne ton cadeau d'anniversaire ?
J'ai presque sauté en l'air. C'est mon anniversaire ? Viviane s'est remise à rire.
Je sais pas. C'est quand ton anniversaire ?
26 août. J'ai récité par cœur.
Alors non.
Je me suis sentie un peu déçue. C'est encore loin ?
Un peu plus de 2 mois.
Elle a répondu sans avoir besoin de compter. Les jours importants, ça n'était pas ça qui manquait. Le jour où Zorro passait à la télé, c'est comme ça qu'on reconnaissait le jeudi. Le jour de Noël, le jour du bain, le jour de la Toussaint. Je ne sais pas pourquoi, il était important celui-là, mais ma grand-mère s'habillait encore plus en noir que d'habitude et elle était triste toute la journée. Mais le plus grand de tous, le roi des jours importants, c'était le 26 août, mon anniversaire. Je passais mon temps entre chaque 26 août à me préparer au suivant, surtout depuis que ma mère avait accepté de mettre une bougie par année sur mon gâteau et qu'il commençait à y en avoir juste assez pour que ce soit joli. Au moment de les souffler, je plissais les yeux, ça donnait l'impression qu'il y en avait 2 fois plus et que j'étais 2 fois plus vieux. C'était toujours mon père qui finissait par souffler à ma place en disant qu'il fallait le bouffer ce foutu gâteau, sinon les bougies allaient fondre. Justement, il n'y avait rien de meilleur que le goût du chocolat à la bougie fondue. C'était ça le goût d'un anniversaire. Sinon, c'était juste du chocolat normal et on pouvait en avoir toute l'année. Mon père n'avait jamais compris. J'avais bien essayé de lui expliquer un 26 août pendant qu'on travaillait à l'atelier. Il m'avait dit d'arrêter de faire de la poésie et de lui passer plutôt une clé à fourche de 12. Je lui avais passé une clé à cliquer de 8. J'ai levé le visage. Et j'ai fermé les yeux en comptant 2 mois à voix basse, en essayant de deviner si c'était loin ou proche. Viviane m'a gentiment attrapé le menton.
On n'a pas besoin d'attendre ton anniversaire. Je peux te donner ton cadeau tout de suite. Tu le veux ?
Oui.
Oui, Majesté.
Oui, Majesté.
Alors viens.
Elle a escaladé les pierres. Je l'ai suivie. Mais juste avant de sortir, je lui ai pris la main pour la retenir. Ou plutôt, j'ai failli lui prendre la main, puis je me suis rappelé au dernier moment que je n'avais pas le droit de la toucher. Elle a sursauté quand même, rien qu'au mouvement que j'avais fait. Mais elle n'a pas fait sa tête de renard de la fois où je lui avais fait peur. Je lui ai demandé « Tu promets que tu ne partiras jamais ?»«
Tu promets que tu ne pleureras plus jamais ?»«
Je promets. » Elle a réfléchi. Et j'ai souri, parce que ses yeux avaient dit oui avant ses lèvres.
Alors je promets aussi.
Je n'ai plus jamais pleuré après ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais j'ai tenu ma promesse. Viviane, elle a menti. Elle m'a quand même offert mon plus beau cadeau d'anniversaire.
Si vous souhaitez continuer la lecture, vous trouverez le livre dans la collection Folio. Par la même occasion, n'hésitez pas à découvrir les autres titres de l'auteur. Des diables et des saints, qui racontent aussi admirablement l'enfance en souffrance, et 100 millions d'années et un jour, où le désir de gloire et de reconnaissance peut mener à la folie. Les textes étaient lus par Dominique et Marie-Paul. Claude Michel a assuré le montage. Musical, vous avez entendu des extraits de Arabesque de Isabelle Aboulker, Earmarked de Wim Mertens. Merci pour votre écoute et à bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le